Votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors aujourd'hui Money Time, saison 5, épisode 8, avec ce soir autour de la table une bande de chroniqueurs pour nous accompagner. On commence les présentations à la gauche avec toi mon Fab, comment tu vas bien ?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end sportif parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ouais, on revient dessus, t'inquiète pas, dans le sommaire. Et puis à côté de moi, c'est Charles, comment tu vas bien mon Charles ?
Salut à tous, ça va très très bien, ravi de vous retrouver.
Et les présentations continuent à côté de moi, c'est Jean-Marc, salut mon pote.
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'Union Saint-Gilloise en tête de la Jupiler League.
Oh, c'est beau ça.
Parce que Saint-Gillois un jour, Saint-Gillois toujours. Oh.
Petit clin d'œil, on les embrasse. À côté de toi, un nouveau bénévole qui vient écouter notre émission, c'est Camille. Salut Camille.
Bonsoir, oui, merci de m'accueillir autour de ce joli plateau.
C'était pas prévu. On va faire connaissance pendant une heure. À côté de toi, lui, ça fait déjà 15 jours qu'il est avec nous, c'est Jérém. Salut Jérém.
Salut, salut et bonsoir à tous et à tous.
Et en cabine, pardon, notre réel Maëlan.
Salut à tous et bienvenue à Camille.
Alors au sommaire aujourd'hui, on commence avec le football. On revient bien sûr sur la Ligue 1 et les championnats étrangers. Dans la foulée, la page handball avec le H bien sûr en Liqui Moly Star League, mais aussi en European League. On parlera aussi bien sûr des Neptunes qui avaient un dernier match avant la trêve internationale. Dans la foulée, l'événement c'est le rugby, tournée d'automne. On revient évidemment sur le test match face aux Blacks. Les sports méca, on développera la fin de la saison WRC et aussi de F1. Il reste deux grands prix au programme. On enchaînera avec Jean-Marc et les résultats des clubs nantais. Et puis, s'il reste un petit peu de place dans Multizone, le reste de l'actualité, Charles, n'est-ce pas ?
Oui.
On est parti, Maëlan, pour parler football. C'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et cette page football, on la commence avec un retour rapide sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On savait que le Portugal jouerait les barrages, mais pas l'Italie.
Et maintenant, on le sait.
Voilà, avec un mauvais nul à Belfast.
Non, c'est ça, c'est un très mauvais nul là-bas à Belfast, en Irlande du Nord. Hein. On sait pourtant que l'Italie est censée largement être supérieure, hein. C'est les champions d'Europe en titre. C'est un coup dur. Dans le même temps, forcément, l'Italie est allée gagner. Ils étaient à égalité de points avant le match, avant la dernière journée.
La Suisse, oui. Face à la Suisse, qui a corrigé la Bulgarie.
4-0, exactement, 4-1. Ouais. Donc c'est vraiment un coup dur pour les Italiens qui vont devoir passer par les barrages, sachant qu'ils n'ont déjà pas fait la dernière Coupe du Monde, éliminée par la Suède en barrage aussi. Donc ça va falloir faire attention.
Alors, le tirage au sort serait connu de ces barrages le 26 novembre, donc ça approche. Hein. Toujours est-il que ça risque d'être difficile. Pour toutes les équipes. Hein, on rappelle, seulement 3 qui se qualifieront sur les 12. Donc à la trappe, on peut imaginer qu'il y ait un gros. Alors est-ce que ça sera un Ronaldo, un Lewandowski ou peut-être l'Italie, on en saura
plus. On peut priver Ronaldo de sa 5e Coupe du Monde, on peut pas mal de joueurs comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a quand même la Suède, il reste la République tchèque, il reste l'Autriche, il reste
l'Écosse.
Bon, l'Écosse, il reste
le Pays de Galles.
Le Pays de Galles. Mais ça ne va pas être simple du tout, du tout pour.
Rappelons juste que c'est en deux fois, il y aura juste deux matchs à jouer, une première étape pour garder les six meilleures équipes et puis un deuxième match pour en garder que trois.
Oui, Jean-Charles, mais comme disait Mathieu, il n'y a que trois équipes qui passent. Hein.
C'est ça.
Donc ça va faire beaucoup sur 12, ça fait quand même du déchet.
Ça va faire un beau trait sélectif.
Et ça va.
Ça sera fin mars. Ça nous fera une super semaine de football fin mars hein, pour enfin avoir tous les qualifiés à la Coupe du Monde. Allez, on enchaîne avec la Ligue 1 et le match qui nous intéressait ce week-end. Nos Canaris se déplaçaient dans la capitale, au Parc des Princes, pour affronter les Galactiques. Score final 3-1, mais le scénario aurait pu être tout autre, surtout après le carton pris par les Parisiens qui nous remettaient vraiment dans le match.
Alors au scénario, au bout de 2 minutes de jeu, petit peu de réussite pour Mbappé qui marque et qui dévie un tir de Paredes, je crois. Ouais. Du coup, Paris mène. Paris a plusieurs occasions. Alban Lafont va faire ce qu'il faut dans les buts.
Super première période.
Très exactement. Bon match. Et puis, deuxième période, le scénario s'inverse un peu comme l'année dernière. Navas va faire une grossière faute sur Ludo Blas. Carton rouge totalement logique.
Il n'y a rien à redire.
Et puis derrière, sur un corner du rentrant, non, un coup franc, pardon, on va dire un centre du coup franc, Quentin Merlin.
Randal Colomoni, qui reprend de la tête, qui Rico
l'arrête. La renvoie et talonnade.
Et il reprend en talonnade et il marque le but, la goal line est intervenue, il n'y a pas de souci. Donc Nantes égalise, à ce moment-là on dit c'est bien parti, Nantes va pouvoir faire son match, va au moins chercher le match nul.
C'était la 76e et exactement. Puis 5 minutes après, sur un ballon anodin, Appia qui reprend une espèce de volée un peu bizarroïde.
En fait, il tacle le ballon sur la passe de Messi, et même en dehors de la surface de la réparation. Et en fait, le ballon, je ne sais pas comment il fait, mais il se dirige vers le but et tout, et ça lobe Alban Lafont, ça a quasiment une lucarne opposée. Enfin,
direct
c'est vraiment,
petit filet, le but le plus idiot. Hein.
C'est tellement gag.
Ça a redonné l'avantage à Paris, qui d'ailleurs ont enchaîné par le premier but de Messi à la 87e minute.
Exactement. En fait, je pense que ce deuxième but, un peu pas prévu, hein, parce que franchement, Nantes comptait beaucoup plus attaquer. Hein, c'est ce que voulait Camboiré, mettre beaucoup plus d'offensive et pouvoir presser les Parisiens avec un joueur en plus sur le terrain. Mais là, ce but-là, ça a mis un gros coup sur la tête aux Nantais et ils ne se sont pas remis. Et on a bien vu que sur les contre-attaques parisiennes, ça ne défendait plus et Messi en a profité.
Oui, mais sur l'ensemble du match, on est quand même pas mal. Bon, évidemment, Lafont nous a un peu aidés. Il a quand même fait 5 arrêts décisifs, hein, ce qui lui vaut la meilleure note sur l'équipe aujourd'hui. Et quand on démarre Mbappé et Messi en face, quand même, c'est pas mal. Mais ce que je retiens du match, hein, c'est un très bon match de Quentin Merlin. Il a 19 ans. Il est issu du centre de formation. Il faut savoir qu'en 2001, dans les titres de Nantes, on avait 22 joueurs issus du centre de formation. Là, on n'en a plus que 3. Donc maintenant, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas. On n'est pas dans
c'était le pas stade. Le même président.
C'est un des seuls qui n'est pas parti, parce qu'on a une équipe qui était championne de France il y a 2 ans à peu près, en jeunes.
Ah, chez les jeunes, on marche, le FC Nantes marche
très
bien.
Et du coup, en fait, ils ont presque tous été vendus.
Oui, parce que...
Et Quentin Merlin est un des seuls qui reste.
Et il faut se rappeler ce qu'a dit Antoine Camboiré cette semaine. Et il a dit, voilà, les petits jeunes qui sont issus du centre de formation, sont encore très loin du haut niveau. C'est un peu piqué au vif, ces petits jeunes qui sont rentrés, qui ont un peu temps de jeu.
Leurs encadrants.
Qui ont eu un peu temps de jeu. Voilà, les encadrants en plus, je pense qu'il y a encore Stéphane Désigné dedans. Et là, ça les a surmotivés et je pense que ça va bouger un peu plus. Il faut savoir que l'année dernière, on était 16e avec 6 points. Et là, on est 18e. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour l'instant. Mais il va falloir gagner des matchs. Il va falloir gagner des matchs à la maison, surtout parce qu'à la maison, on n'est pas très...
Et c'est Marseille qui se profile.
On enchaîne avec les voisins. On enchaîne avec les voisins. Rennes, qui avait pris la place de dauphin samedi, avec une belle victoire face à Montpellier.
Tout à fait. Victoire 2-0 contre Montpellier. Match parfaitement maîtrisé. On aurait même pu avoir un plus gros score que ça s'il n'y avait pas eu le poteau de Taït et d'autres faits de jeu. Et Rennes qui enchaîne du coup sa 11e victoire sans défaite, meilleure performance dans tout championnat européen. Tout
et qui vont sur le podium. Plus de 30 tirs pour les Rennais. Hein.
Ouais, plus de 30 tirs et seulement 2 marqués. Et du coup, c'est vrai que la stat, on a pu en ils auraient pu au moins en marquer 5 ou 6 facilement. Mais du coup, les faits sont là. Rennes enchaîne bien et montre que c'est maintenant un club à surveiller et à faire attention dans ce championnat de France. Ils accrochent la 3ème place. C'est très bien pour eux qu'ils puissent continuer comme ça et à produire du très beau jeu.
Avec une période difficile, Jérémy, au mois de septembre.
Voilà.
Une période difficile.
Un démarrage.
Rennes chute, Rennes tombe, Rennes tombe.
Après, je pense aussi que c'est dû au fait aux nombreux départs et aux nombreuses arrivées de très jeunes joueurs qui ont tous entre 18 ans et 21 ans, qui viennent des championnats des pays de l'Est et scandinaves. Le temps d'adaptation a été un petit peu long. Là maintenant, on voit que l'effet que c'est la mise à prix. Et surtout, là, on voit depuis 2 matchs un très gros Lovro Majer, le jeune croate qui ressemble un petit peu à Modric. Il fait des performances et il a un toucher de balle et un toucher de passe fabuleux.
Il y a quand même un bel effectif et il y a du monde sur le banc encore.
Aussi.
Et puis félicitations à Bruno Genesio qui a bien fait marcher son équipe.
Mais c'est ça, mais de toute façon, Rennes, c'est un club très bien structuré qui, depuis des années, a une politique de recrutement, politique sportive.
Ça nous fait mal de dire ça quand même, nous.
On doit le dire.
On n'a pas la même politique.
Voilà, on doit dire, nos amis rennais.
Ils ont une direction sportive, ils ont un truc, ils ont un projet, un vrai projet, et ça se concrétise au fil des années. Ils ont été qualifiés en Ligue des Champions, là ils sont en Ligue Europa Conférence, mais c'est vraiment, et depuis que, je trouve que c'est surtout depuis le Lavro Majer, qui du coup le jeune croate dont tu parlais, Jérém, il apporte beaucoup au milieu de terrain rennais, et il apporte en bien, il a marqué ce week-end face à Montpellier.
Et le week-end d'avant, il avait fait une passe décisive.
Exactement, et je trouve qu'il il renouvelle un petit peu le milieu de terrain rennais, et il apporte une stabilité et de la solidité à Rennes, sachant qu'il était pas loin début de saison pour des blessures. Je trouve que c'est un petit peu l'élément déterminant pour l'instant, ce qui fait que Rennes pour l'instant enchaîne très bien.
C'est ça.
Ils seront là, je pense.
Pour la Champions League, ils vont être présents.
Et puis, tu en parlais tout à l'heure et on peut le souligner quand même parce que pour une fois qu'on a des clubs français en Europe qui marchent bien, Rennes a un groupe du UEFA Europa Conference League, la nouvelle compétition. Il y a quand même Tottenham dans le groupe. Ils sont premiers du groupe, ils n'ont pas perdu de match. Donc il y a aussi une crédibilité européenne qui est en train de se construire. Tu disais aussi la Ligue des Champions il y a quelques années. Donc il y a un vrai projet, il y a vraiment quelque chose qui se passe à Rennes et c'est sympa de voir ça. Et si à Nantes on pouvait s'en inspirer, ce serait une bonne idée. Quoi.
il y aura du changement pour qu'on s'en inspire.
C'est bon, Rennes qui s'inspirait de Nantes et là je pense que maintenant on va peut-être inverser les rôles.
On va rappeler Gilles et son frère, ils vont nous expliquer.
Voilà.
Bon allez, un mot de Brest. Brest vient de cartonner Lens et qui se donne de l'air dans ce championnat.
Tu sais que Brest est comme certains énormes clubs européens, la seule équipe qui marque à tous ses matchs.
Mais Brest est une équipe très offensive. Avec Michel Darzakarian, le coach qui vient de Montpellier, hein, on voyait déjà avec Michel Darzakarian, ça.
Tu voulais pas dire qu'il venait de Nantes à une époque.
Il était à Nantes.
T'as voulu éviter de le dire, je pense.
Ça, c'est pas forcément quelque chose dont il est fier. Non, je rigole.
Je pense que Charles, tu t'es retenu de dire. Il a été à Nantes aussi.
Non, mais c'est pas retenu.
C'est quelqu'un qui développe du jeu. On l'a vu avec Montpellier, avec Delors, Mollet et Laborde. Et là, avec Brest, en début de saison, ça marchait pas bien. Ça avait du mal et tout. Mais là, je pense que maintenant qu'il a pris son empreinte sur le collectif brestois, ça marche très bien. Donc, des joueurs comme Romain Fèvre qui confirment leur talent et tout, qui a marqué.
Et leur capitaine, Brendan Chardonnay, qui marche très très bien.
Qui est le fils d'un pote à nous. Hein, donc, voilà. On va pas dire de mal.
Que Régis, si vous entend.
Salue Régis Chardonnay.
Et donc les Brestois qui font tomber les Dauphins du PSG 4-0.
Exactement.
Il n'y a pas photo.
Lens qui du coup n'est plus sur le podium et passe quatrième.
Voilà. Non, on va pas reprendre tous les résultats de la journée, mais on peut dire que ça va mieux pour Saint-Té.
Ça va mieux pour Saint-Té qui enchaîne une deuxième victoire avec une. C'est dur, hein, Camille.
C'est compliqué. 4 matchs en défaite, Charles.
C'est vrai.
4 matchs en défaite.
Quand et on est Nantais, supporter stéphanois, je peux vous dire qu'on vit des moments pas faciles.
Imagine, et puis on s'accroche. Les histoires internes du club qui sont pas faciles non plus, et voilà quoi.
Mais il n'y a rien qui va.
Mais bon, là, il y a quand même 4 matchs en défaite, c'est quand même pas mal.
Camille, est-ce que tu as des nouvelles de ce prince cambodgien ou alors...
C'était un fake.
Il y a eu des tas de choses qui sont sorties. Moi, je suis ça un peu de loin parce que la vente du club, ça fait peut-être 10 ans qu'on nous l'annonce à Saint-Étienne.
Et les momies sont encore là.
Ouais, voilà. À chaque fois qu'on ouvre un placard, il y a un squelette qui tombe. Non, c'est compliqué. Puis
Après, personnellement, j'ai pas envie qu'il nous arrive comme à Lens, qui a été racheté par Mamadov, où ça s'est terminé en Ligue 2, c'était très compliqué. Mmh. Ou alors à Strasbourg, enfin voilà, il y a beaucoup de clubs qui ont été revendus. On leur a vendu du rêve et derrière.
Même Bordeaux avec King Street, machin.
Tout à fait, même à Lille. Enfin voilà, il y a eu des choses un peu pas claires. Donc tout ce qui est la revente, etc.
Même s'ils sont mauvais, pour l'instant, il vaut mieux les garder.
Ouais, non, mais c'est ça, je préfère.
C'est d'être moins mauvais qu'autre chose.
Ouais, c'est puis.
Pas c'est une petite musique qu'on entend des fois par ici aussi.
Est-ce qu'on est à plein d'un autre?
Ah, Nantes, ouais, le sujet du rachat, c'est aussi quelque chose. Mais c'est pareil, hein, on en parle toujours.
Non, mais c'est ça, c'est le club historique de Ligue 1.
C'est le même combat entre les deux rivaux des années 70-80.
Exactement. Bon. Et donc, au Saint-Etienne, qui revient, qui raccroche le wagon du maintien à un point de Clermont 3, Bordeaux et Reims, qui sont tous les 4 à 13 points. Et le Saint-Etienne à 12.
Clermont qui continue de se rater en menant à chaque fois au score. Hein, c'était le cas contre Saint-Etienne et puis ils avaient fini par perdre 3-2, ce qui a relancé Saint-Etienne. Et puis là, c'était contre Nice, ils menaient 1-0 et puis à la finale, ils perdent 2-1.
En fin de match en plus, dans les 15 dernières minutes, ils prennent deux buts de Gouiri. Mais clairement, ça a tout un peu. J'ai vu ça, un journaliste qui disait ça, c'est que clairement, ça a tout l'équipe d'une équipe qui joue très bien, mais qui malheureusement va descendre. C'est comme ça.
C'est pas impossible.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est la contre-performance de Bordeaux à Metz, hein, qui gagnait 2-0, qui se fait remonter 2-2, qui regagne 3-2, qui joue à 11 contre 10 et qui se font égaliser. Et Bordeaux, ils sont dans le dur aussi. Ils sont dans le dur. Et
le Bordeaux a toujours été dans le dur depuis un moment. Hein,
oui, ça fait quelques années, mais là, c'est quelque chose quand même.
Mais Mbaye Niang disait quelque chose de très intéressant, le joueur qui prêtait par Rennes d'ailleurs à Bordeaux, qu'ils étaient un petit peu arrogants, hautains dans la façon de jouer, alors que finalement, ils sont plutôt en difficulté en ce début de saison. Donc, il faudra quelque chose à corriger. Et Bordeaux, surtout, ça vise maintenant, c'est le maintien et que, attention à la relégation parce que ça va jouer très serré.
Charles, tu dis ça, mais l'année dernière, à la même époque, on était 16e avec 6 points.
Ah oui.
Là, on est 11e avec 18 points.
Oui, mais on n'avait pas l'arrogance des Bordelais. On était nuls, c'est
tout.
On était Charles, et on le savait.
Je ne serais jamais permis de dire ce que tu viens de dire. Tu assumes complètement ce que
j'assume
tu viens de dire.
J'assume totalement.
Mbaye Niang qui parle d'arrogance, moi, ça me fait un peu rigoler parce aussi. Que bon. Voilà, il a un passif aussi de. C'est un joueur que je qualifierais d'arrogant. Donc
oui. Mbaye Niang, il était promu à une carrière assez intéressante et finalement, par des choix un petit peu bizarres, même à Rennes où il performait très bien finalement. C'est...
Et puis, il s'est pris la tête avec son entraîneur à l'époque.
Exactement. Bon.
Alors, je voulais juste revenir sur un petit truc. On parlait de Lafont tout à l'heure, le gardien de Nantes, qui a fait une prestation absolument exemplaire. Et il faut savoir que peut-être que l'équipe de France lui ouvre les portes. Avec évidemment Mamanda qui est sur le banc à l'OM et Maignan qui est blessé.
Madame.
Peut-être que Lafont aura une place sur les matchs préparation.
Je pense qu'il en est encore loin.
Il a que 22 ans. Hein, donc.
Oui, mais il est gardien espoir. Mais du coup, il s'est même fait un peu passer devant par. Mélier, ou même. Comment il s'appelle, le gardien d'Angers.
Paul Bernardoni.
Merci.
Et gardien de Tottenham.
Allez, on enchaîne quand même avec d'autres résultats. Lille qui, mauvais OP, hein, après avoir mené 2-0 à Monac, qui repart du rocher avec le point du match nul. Demain, il va falloir être plus efficace et confirmer la belle entrevue qu'on a vue en Ligue Europa.
Ils ont la tête ailleurs.
Lille et Monégas, ça sont patines. Hein. Lille est 12e, Monaco n'est que 8e. Enfin, c'est deux équipes qui patinent un petit peu en cette saison assez compliquée, donc bon, ça va se bagarrer hein, pour les places européennes, mais ça va falloir pas traîner parce que.
Ouais. Et puis le voisin Angevin, 1-0, service minimum hein, pour garder la 6e place du championnat. C'est
penalty discutable.
Penalty discutable.
Il y a quand même le pied en travers.
Dans le foot, tout est discutable. C'est normal. Je suis morbillanais.
Je te dis qu'il y avait péno.
Et puis, on ne revient pas sur le choc au sommet hein, de la 12e journée, Lyon-Marseille.
Ça s'en souvient un pathético.
Ouais, et on a d'autres choses à dire, notamment à l'étranger, Jérém. À l'étranger, on commence par ce que tu veux, Espagne, Angleterre,
Italie,
Allemagne.
On va d'abord partir faire un petit tour en Bundesliga.
Le Bayern qui perd.
Bayern qui perd à nouveau contre une équipe d'Augsbourg en début de match. Dès la dernière de jeu, ils perdent 2-0. Lewandowski a réussi à vouloir ressonner à la révolte, mais Lewandowski, fait très rare pour ce joueur, a eu beaucoup de loupés d'occasions dans ce match. Il a eu 5 occasions loupées. Ça fait beaucoup pour un joueur de sa classe mondiale.
Par contre, très joli but marqué avec une belle aile de pigeon sur l'action.
Tout à fait.
Ah bah, c'est la seule chose à retenir du match. Mais surtout face à une équipe de Augsbourg qui était la moins bonne attaque de championnat. Donc c'est un peu un coup dur pour le Bayern.
Et une occasion pour Dortmund de revenir à un point du leader.
Ils sont à un point du leader grâce à leur victoire contre Stuttgart. Grâce à enfin un but de Daniel Malel qui revient à faire des bonnes performances malgré le statut de star qu'il a été mis pour remplacer Sancho. Il confirme un petit peu mieux, c'est bien pour Dortmund, mais Dortmund reste quand même sur un courant alternatif. Ils ont, au niveau défense et niveau attaque, ils ont du mal à bien contrôler toutes leurs actions.
Surtout avec le Haaland qui est blessé en ce moment, c'est un peu encore un peu plus compliqué donc en attaque. Bon là, ils ont réussi à s'en sortir en fin de match grâce à Marco Reus. Ils sont dans le bon wagon, de toute façon ils sont avec le Bayern.
Ils se maintiennent comme il faut.
Ça peut être serré, mais ça va être quand même compliqué pour les Dortmund cette année d'aller titiller le Bayern.
Et Fribourg, toujours surprenant, troisième.
Toujours troisième, mais malgré, ils ont perdu face à Francfort. Francfort qui va pas très bien en ce début de saison, hein, qui était pourtant en Coupe d'Europe cette année. Donc Fribourg enchaîne un petit peu.
Match.
Hein, comment ?
Trop de matchs.
Ah bah à bout d'un moment, c'est ça. Donc Fribourg qui enchaîne un petit peu moins bien ces quelques dernières journées.
Ouais, tout comme Leipzig mauvais parcours en Ligue des Champions et en championnat ils sont en train de se perdre dans le ventre mou là, après cette défaite à Hoffenheim 2-0.
Et dommage pourtant, Leipzig c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs mais qui est vraiment trop sous courant alternatif, qui enchaîne deux bons matchs, qui en font deux mauvais matchs d'affilée, c'est pas très cohérent. Et là,
il manque un peu de stabilité.
Et qui descendent à la 7ème place.
Petit plaisir pour moi, c'est la victoire d'Union Berlin dans le derby contre l'Hertha 2-0 qui leur permet de prendre la 5ème place.
Ok, pour l'Allemagne, on va aller en Angleterre, Jérém.
Alors, l'Angleterre, il y a du lourd. Avec la nouvelle victoire de Tottenham, de l'équipe de Antonio Conte qui commence à confirmer un peu mieux une structure de jeu. Chelsea, le solide leader qui a écrasé Leicester 3-0 avec un petit but de notre français N'Golo Kanté.
Magnifique en plus. Belle frappe de l'extérieur.
Très beau but, c'est ça.
Et du pied gauche.
Tout à fait. Et City confirme son statut, toujours 3-0, qui a déroulé tranquillement contre Everton sans forcer.
Oui, City qui avec deux beaux buts magnifiques de
Sterling.
De Sterling et tout, avec un extérieur du pied à la Ricardo Quaresma pour Cancelo. Les deux sont portugais. Et une frappe de une papitas qui nous a mis Rodri, là, le milieu défensif
espagnol.
Donc c'est magnifique, c'est joli.
Et là, Jérémy, tu vas tout qui va piquer la défaite de Manchester.
La nouvelle défaite de United, 4-1 face à Watford.
Aïe, aïe, aïe.
Où on les a vus inexistants dans tout le match. Dès le début du match, Maguire provoque un pénalty sur Sarr. Sarr qui loupe totalement son pénalty, mais qui a été retiré parce qu'au moment où Sarr a tiré pénalty, les joueurs sont entrés dans la surface, qui a été retiré. Nouvel arrêt de Dera.
Oh là là.
Et à ce moment-là, on pensait que United allait réagir et allait attaquer le match plié au plancher, sauf qu'il ne s'est pas passé.
Rien du tout.
Grâce à une super performance du joueur Emmanuel Denis, qui est auteur de la première participative pour Joshua King, pour l'ouverture du score. Ismaïla Sarr a enchaîné juste après en marquant une belle reprise de volée à l'extérieur de la surface. On pensait qu'il perdait confiance dû à ce penalty, il a réussi à se remettre dans le match. Et début deuxième mi-temps, Van de Beek a voulu le signer à la révolte de United qui s'est très vite écroulé pendant toute la deuxième mi-temps où United en défense n'a pas du
Maguire.
Tout existé. Et encore Maguire qui fauche lamentablement un joueur de Watford en croquant jambes.
Mais
carton rouge.
Il tente de faire un crochet alors qu'il est dernier défenseur pour éliminer le défenseur, sauf que du coup le ballon est poussé trop loin. Le joueur de Watford arrive à l'intercepter et du coup il tacle dans les chevilles. Enfin, c'est vraiment. Mais ce Harry Maguire, c'est.
Est-ce que c'est la défaite qui va sceller le destin?
C'est fait.
La défaite
c'est
fait. Qui a scellé.
Le Norvégien, l'emblématique.
L'ancien légende Super Sub.
L'ancien Joker. Le Joker qui.
Il aura été adulé, quoi. 10 mois. 12 ?
Non, mais ça fait un petit moment qu'il est là.
Il était un peu plus. Ça fait un peu plus de 2 ans. Ça faisait un moment qu'il était taclé par ses supporters et surtout complètement lâché par ses joueurs.
Et là,
dont un certain Paul Pogba qui n'a pas été clair dans l'histoire.
Et donc,
Michael Carrick qui le remplace.
Et sur les tablettes,
Pochettino.
J'ai des informations.
Zinedine.
Exactement.
Et où Laurent Blanc aussi.
Et Raymond Domenech, on n'en parle pas.
Il ne va pas venir les sauver pour avoir un rôle.
Sur le tableau de l'île. Bon, alors les Reds des villes cool, mais les Reds vont bien.
Qui enchaîne très très fort contre Arsenal. Première mi-temps plutôt équilibré, où Arsenal a monté de très belles choses. Et puis, fin de première mi-temps, Mané qui marque son petit but. Et après, ça a déroulé pour les Reds. Le score est de 4-0, mais ça rappelle bien pire, parce qu'il y a eu un très grand Aaron Ramsdale.
Ramsdale, il fait un très bon début de
saison. Très bon, fort en but, et qui sauve Arsenal d'une grosse, grosse déculottée. Ouais.
Bon, bah, les gros ont gagné. Chelsea 29, City 26, Liverpool 25.
Bah, c'est ça, il y a un trio de têtes qui se dégage.
Ouais, vraiment. Hein. Mmh.
Et le reste, bah, ça va jouer Tottenham, West Ham, Wolverhampton, tout ça, ça va jouer entre eux. Ouais, ça va jouer pour les places, la quatrième place potentiellement.
Aston Villa aussi pour l'instant. Aston Villa qui est là.
Oui, il vient de changer d'entraîneur, Aston Villa.
Et c'est un
Steven Gerrard.
Historique qui a repris les rênes récemment, qui signe sa première victoire avec Aston Villa d'entrée de jeu.
Exactement.
Quatrième.
Et vous savez que Steven Gerrard a signé un contrat jusqu'à la même durée de fin qu'un certain
Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp, exactement.
Mais il a dit que ça ne le dérangerait pas si Jürgen Klopp signait un contrat à vie avec Liverpool.
Oui, non.
Donc, bon, c'est peut-être de la com plutôt qu'autre chose.
Je pense qu'il y a un poste qui est promis à Steven Gerrard si ça se passe bien.
Allez, on passe en Espagne. Un championnat qui passionne pas énormément les foules.
Et en Espagne, on aura pu, on peut dire, le retour du légendaire Xavi à la tête du Barça. Le Barça qui a péniblement gagné 1-0
son derby.
Sur le derby de l'Espagnol, grâce à un penalty de Memphis Depay. Au niveau du jeu, il y a un peu de mieux. Il a fait rentrer beaucoup de jeunes joueurs de la Masia en jeu. La Mayonnaise commence un petit peu à prendre, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour voir les vraies performances de Barça.
C'est un développement, de toute façon.
Absolument, et que Barça remonte à la 7ème place.
Allez, parle-nous du leader, le Real, en déplacement à Grenade.
Et le Real qui a parfaitement déroulé face à Grenade grâce à un très très beau duo au milieu de Modric et Toni Kroos. Kroos qui lance parfaitement Asensio dans la surface pour une super but de Marco Asensio pour l'ouverture du score. Et après, c'est le duo Vinicius-Benzema en combiné qui leur a fait très 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 mal aux défenseurs de Grenade.
Benzema qui reste muet hein, quand même.
Ouais. Hein, mais il a fait des tentatives, il n'a pas fait les, pas forcément ouais, bon, fait
il
les
fait
bons choix.
Il fait deux super passes. Hein.
Ouais. Mais il fait deux super passes pour une pour Nacho et une pour Vinicius, qui de base n'était pas pour Vinicius, il l'a fait à Modric et Modric la remet à Vinicius juste après. Et très belle combinaison des trois. Et finalement, le petit cocorico, c'est Ferland Mendy qui a fait un très gros match sur son piston côté gauche, a monté en piston. Il a marqué son petit but à la fin du match grâce à l'une de ses nombreuses montées offensives.
Une petite statistique sur Vinicius Junior, qui est le premier joueur de l'an 2000,
après 2000,
a marqué 10 buts sur une saison. Dans les grands championnats.
D'accord.
Voilà.
Donc, j'ai vu ça. Il a préchauffé, mais ça y est, il est en forme. Vinicius.
Exactement. Cette saison, uniquement cette saison, il a marqué autant de buts que sur les trois dernières saisons qu'il a passées avec le Real Madrid.
Il a mis le maillot au Riverdé hein, au dernier rassemblement c'est avec le Brésil. Donc, un joueur qui progresse. En Espagne, donc Sociedad, Dauphin du Real, et c'est le Betis qui marche bien, le Betis de Fekir, Jérémy.
Le Betis de Fekir qui se relance bien après des semaines assez mitigées, dont ce qui s'est passé en Coupe d'Europe récemment. Un beau match, finalement gagné 3-0, avec le dernier but marqué par notre Nabil Fekir.
Je crois que vous avez une petite erreur, c'est le FC Séville qui est 3e, le Betis est 5e.
Oui, c'est 5e.
Ouais. Et Sociedad, le Dauphin Sociedad, j'ai dit. Ouais.
Tu as raison sur la Real Sociedad qui est, après un match nul face à Valence 0-0, est passé deuxième.
Et FC Séville qui faisait match nul 2-2.
Et si on va être complet, l'Atlético en gagnant 1-0 face à Osasuna Pamplune est quatrième avec 26 points.
Ouais, avec un but de son défenseur Felipe.
Exactement.
Et en Italie, on conclut, Jérém.
Pour conclure en Italie, les deux derniers clubs qui n'avaient toujours pas perdu cette année ont perdu le même soir. Le Milan AC qui perd 4-3 face à la Fiorentina, qui était menée 3-0.
Malgré le doublé de Ibra.
Et c'est Zlatan qui a voulu relancer la machine, mais ça n'a pas suffi. Du grand Zlatan. Et le Napoli qui perd contre l'Inter 3-2.
L'Inter qui revient dans la course au titre. Ça revient, ils sont plus qu'à 4 points du duo Napoli-Milano. Donc à suivre. Et le carton quand même de l'Atalanta, hein, encore l'équipe qui marque le plus de buts.
L'Atalanta qui marque. Une équipe vraiment très offensive, qui donne tout pour l'attaque et et d'ailleurs tous leurs joueurs marquent, des buts, que ce soit des défenseurs ou des attaquants. C'est tout le monde joue, tout le monde marque dans cette équipe.
Ok, allez, on
un
ferme.
Un petit mot de foot féminin, je le fais tout de suite. Donc c'était Tour de Coupe de France, le premier tour fédéral. La victoire d'Orvosport 2-0 sur le petit pousset Notre-Dame-d'Oé. Et pour le FC Nantes, c'est une victoire à La Roche-sur-Yon 2-0 également, avec des buts de Diaz et Ringenbach. Et je vous rappelle que le prochain match, ça sera le 5 décembre à 14h30 à Marcel Saupin. Le FC Nantes recevra le Havre Athletic Club co-leader et c'est gratuit. Allez-y tous, faut battre leur corps de 1000 spectateurs.
Alléluia, allez Maëlle, on parle handball, c'est Hashtime.
Hashtime, Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtime.
Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et chronologiquement, la semaine du H avait démarré mardi avec la réception de GOG. On vous parle d'European League. GOG, club danois invaincu jusque-là, bah, qui est tombé sur un os qui s'appelait le H. Hein, un H en mode Coupe d'Europe, cette fois-ci Jean-Marc, avec des joueurs déterminé, agressif en défense et efficace en attaque.
Qui avait besoin de faire mieux. Le H était présent. On a eu le plaisir d'avoir dans les buts, adverses de GOG, deux bons gardiens.
Victor Grimson, notre futur gardien, qui ne nous a pas forcément épaté.
Non,
2 sur 9.
C'est surtout son confrère qui était plutôt pas mal.
Bergerug.
Exactement. Mais pour nos Nantais, franchement, ils ont déroulé. Ils ont eu un peu de mal au départ et puis après, ça a déroulé.
Ouais, avec un Aymeric Mine vraiment hyper performant à 6 sur 8. Et puis Lazarov qui prenait ses responsabilités en défense.
Avec 4 buts en 3 minutes pour Aymeric Mine, il a mis le feu à la H Arena.
Ouais, de l'autre côté, on avait Jerry Tolbring, hein, l'ailier suédois, hein, qui mettait tous les pénaltys et qui termine quand même à 9 sur 12 à 75%. On a parlé bien sûr de Bergerud qui fait quand même 12 arrêts sur 31. Mais le H, avec cette victoire 27-24, se donne de l'air. Pour moi, l'équipe de GOG était trop verte ou toujours est-il en manque de maturité pour affronter une équipe comme le H.
Une équipe très très jeune.
Ouais, dans ce groupe, celle qu'il va falloir suivre, l'équipe dont il va falloir se méfier, c'est le Benfica Lisbonne. Hein, pour l'instant, leader du groupe avec 9 points sur 9.
Qu'on jouera les deux matchs au mois de décembre d'ailleurs.
Bah, on va en parler, ouais. C'est le XXL Tour pour le H. Hein, donc on rappelle 3 matchs à la Grande Halle XXL. Le 7 face à Benfica, le 11 face à Chambé et le 14, Jean-Marc, maintenant, pour le choc face au Paris Saint-Germain. On rappelle l'objectif pour le H, c'est de faire 30 000 personnes, 10 000 à chaque match. Et pour cela, vous allez sur billetterie@hbcnantes.fr, bien sûr, pour soutenir les violets.
Alors, juste avant, Nantes se déplace en Russie. Hein, c'est mercredi contre le Medvedi Tchekhov. Donc, c'est les ours de.
Ouais, un déplacement. Bah, il serait bien inspiré de revenir avec quelques points. Hein, C'est jamais facile d'aller en Russie à cette époque-là de l'année.
Exactement, avec une victoire, et on espère que ça sera le cas. En championnat, du coup, c'était un déplacement à Chartres samedi, et une victoire 33-27.
Ouais, là encore, hein, on va parler de ceux qui ont cartonné. Ben Valero Rivera, hein, qui termine à 12 buts, bien sûr, et pêche Malbec, notre pivot, qui était à 5 sur 6, donc super efficace. On a été un peu vite en besogne en enchaînant avec le match de championnat, parce que Valero Rivera était au micro de Prune mardi à la H Arena. On va quand même l'écouter.
Ah, on va écouter.
Valero, bonsoir.
Félicitations pour la victoire. Ce soir, on a vu un H en mode Coupe d'Europe avec beaucoup d'agressivité défensive, ce qui avait manqué face à Lemgo.
Oui, tout à fait. C'est ça qu'on doit faire tous les matchs. On a sorti agressif, on a serré. Je crois qu'on a fait un super match en défense, surtout avec un adversaire qui met plus de 30 buts par match. Vraiment, on était dedans et c'est un plaisir de trouver l'équipe pour ça.
Offensivement, on n'a pas vu beaucoup de combinaisons sur les ailes avec le pivot, mais on a senti une équipe qui prenait ses responsabilités, hein, et très offensive.
Oui, bien sûr, bien
efficace.
Sûr. Oui, là, on a raté pas mal de choses, mais on n'a pas douté. Et je crois que c'est ça le plus fort qu'on doit retenir de ces matchs, qu'on ne doute pas, qu'on continue à jouer, qu'on continue à défendre, qu'on continue à faire des combinaisons pour libérer les tireurs. Et on l'a fait, et je crois que c'est ça que ça nous fait gagner le match.
Oui, vous avez été solide, vous avez toujours été devant au score dans ce match. Est-ce que ça va être un match référence pour le Hatch?
Oui, c'est sûr que ça peut l'être, surtout à niveau défensif, parce que je crois que c'est le meilleur match qu'on a fait défensivement d'ici le début de saison, et on doit retenir ça.
Je te remercie, Valéron.
Merci.
Et du voilà. Coup, pour en revenir à la Star League, hein, notre super Star League, où il y a de très beaux matchs, je voulais te parler d'autres résultats plutôt importants.
La défaite de Montpellier.
Exactement, à Chambéry. Montpellier qui menait 13-12 à la mi-temps et qui s'incline 27-23. On rappelle que c'est une équipe qu'on peut retrouver en finale de Coupe de la Ligue Chambéry, puisque ce sera Chambéry-PSG et Nantes-Montpellier mi-décembre.
Et Montpellier avec 9 points, à déjà Metz. À 6 points des Nantais.
Exactement.
Donc autant dire qu'en début de saison, Charles, on parlait que c'est une équipe qui allait avoir une saison difficile. Ben, ils sont en plein dedans. Hein.
Bah, c'est totalement ça, hein. Montpellier qui est lâché et tout. Et qui,
bien en Coupe d'Europe, bien en Ligue des Champions. Mais
c'est ça, mais en championnat ils n'y arrivent pas. Hein. Ils ont plus de défaites que de victoires. Ils sont plus proches finalement des relégables, du maintien que des premiers. Bon.
Ouais.
C'est kiff-kiff, entre guillemets, ils sont vraiment au milieu de tableau. Donc Montpellier, cette année, ça va jouer le ventre mou et ça va être compliqué l'année prochaine. Les
et
voir
seul
en coupe
le ex résiste à Nantes. Au
exactement,
final.
Avec une victoire difficile face à Cesson, 25-24, ça s'est joué de justesse. Et puis, bien sûr, il y a toujours notre leader, le PSG, qui bat 42-31 Saint-Raphaël, qui aurait pu nous rattraper en cas de victoire, mais ça n'a pas du tout été le cas pour les Raphaëlois.
Paris en roue libre, un 10 sur 10.
Ce qui fait qu'au classement, PSG 20 points. Deuxième, Nantes et Aix 15 points. Quatrième, c'est Nîmes, Chambéry et Saint-Raph 12 points. Cesson est juste derrière. Et Montpellier seulement apparaît.
Allez, tu nous parles des filles. Les Neptunes qui étaient à Ourse pour le match retour du troisième tour qualificatif d'European League.
Exactement. Donc du coup, il fallait finir le travail que vous aviez vu dimanche dernier, qui était bien commencé avec un plus 15.
Plus 15, oui. Et plus 15, puis, plus 10, ça fait plus 25.
Exactement, puisque Nantes l'a emporté 35-25 en Suède. À part une petite faiblesse entre la 20e et la 40e, où Ours était revenu à 3 buts, Nantes après a déroulé. Et je voulais signaler la superbe prestation de notre deuxième gardienne, Floriane André, qui a fait 7 arrêts, donc elle est à 35%. Et surtout marqué 3 buts.
Ouais,
et... Alors pour les filles, on les retrouve le 5 janvier, puisqu'entre temps, il y a les championnats du monde en Espagne.
Et elles seront accompagnées quand même de Besançon et Chambéry-Touraine hein, dans cette compétition.
Oui, puisque toutes les. Alors à part Brest qui perd de 2 buts à Buducnost, toutes les autres équipes françaises ont gagné, y compris Metz.
Cocorico. Bon, voilà, la page handball, c'est fini, Maëlan. On va passer à l'événement, c'est Highlight. On parle de rugby, bien sûr.
Money time. Highlight. On discute, on échange et on analyse autour d'un invité ou d'un événement. Highlight. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et l'événement, les garçons, c'était la troisième levée de cette tournée d'automne. La réception des Blacks au Stade de France pour une victoire historique, on peut le dire. Cocorico, là encore, 40-25 du jamais vu, mettre 15 points aux Blacks. Hein.
C'est ça, c'est historique. C'est le plus gros écart dans le total des rencontres entre les Français et les Blacks. On a assisté à une démonstration de vitesse, de force, de puissance, d'impact physique. Et face aux Blacks, hormis le début de la seconde période, effectivement. Mais sinon, c'est vraiment les Français qui ont dominé le match et qui ont magnifiquement joué.
Quel début de match avec 3 essais pour les Français. Et surtout, on a vu un talonneur.
Toulousain, magnifique.
Dont tu vas nous rappeler le nom.
C'est Peato Movaca.
Voilà.
Auteur d'un doublé.
Et homme du match en fin de match. logique, mais et qui remplaçait Julien Marchand blessé.
C'est lui le qui conduit le mol et qui à chaque fois va aplatir dans l'embut adverse.
Quelle
incroyable
puissance,
hein.
Quelle puissance.
Il est exceptionnel, c'est son cinquième essai en trois matchs. C'est avec les sur cette tournée, c'est quand même assez incroyable. Il est très efficace, il est très bon. Bah, on n'a rien à dire à part le féliciter, c'est magnifique.
C'est la coupe de cheveux, peut-être.
Non.
Bon, il y a quand même d'autres joueurs dans cette équipe qui ont été impressionnants et on pense bien sûr à l'ouvreur Romain Ntamack.
Ah, Romain Ntamack, il a fait un match exceptionnel. Hein. Surtout ce qui nous marque, c'est surtout sa très belle relance de son en-but.
Exactement. Qui aurait pu amener un essai du bout du monde, comme on aime si bien le dire. Bon, après, Cameron Wauquiez a tenté de la jouer un peu perso, mais il a quand même obtenu un carton jaune qui a fait très mal aux Néo-Zélandais. Et puis, il y a ce ballon aussi arraché de Damien Penaud.
Sur une interception magnifique, qui va prendre.
Penaud qui me rappelle un certain Rougerie à son poste. Hein.
Un petit peu.
Rougerie, il est dans les cours. Il ne pas trop à l'aile.
Oh, il peut jouer.
Ça lui est arrivé. Il était plutôt 14, mais ça lui est arrivé de plutôt 13, mais plutôt ça lui arrivait d'être de temps en temps 14.
Ouais, toujours est-il celui dont je voulais vous parler aussi, c'est au pied Melvin Djamine.
C'est exactement c'est un petit peu un néo en équipe de France. C'est une sélection assez récente. Il vient de Perpignan. Il est catalan. Donc c'est quelqu'un dont Fabien Galthié lui a fait confiance au pied, hein, parce que c'est lui qui tire les pénalités, les transformations et tout. Enfin, alors que pourtant, enfin, on connaît, il y a Romain Ntamack, il y avait Mathieu Jalibert sur les deux premiers matchs. Donc il aurait pu faire plus confiance à des joueurs d'expérience, mais finalement il a fait confiance à la jeunesse et ça a plutôt très bien marché parce qu'il a été très précis au pied, très précieux. Et en plus, il a quasiment fait un 100% au pied.
Et puis, il y avait une question qui se posait sur les paires de centres. Hein. Est-ce qu'il fallait justement inclure Ntamack comme un des centres? Et là, il ne l'a pas fait. Très bien. Très bien, il en a pris en mettant plutôt Danti et Ficou.
Qui ont fait les deux matchs très impactants pour les deux. Ficou qui a très bien géré défensivement et récupéré les ballons. Il a été très, très précieux. Et Danti qui a été souvent dans l'avancée, on l'a vu, des percées et tout. Enfin, il impactait la défense et des Zélandaises qui surtout a eu une première ligne très défaillante.
Et on peut parler du meilleur joueur du monde, au moins à son poste,
oui.
Antoine Dupont.
Oh, meilleur joueur tout court, Antoine Dupont, qui a encore fait un match formidable. Hein. Il sait ce qu'il fait, il gère très bien le match, le fil de match et il joue à son rythme et tout, il fait encore, il gère tout, hein. c'est incroyable, il a un jeu au pied très bon, il sait très bien relancer, il décale quand il faut, où il faut, à droite, à gauche, enfin, on ne peut faire que d'éloges, il a que 24-25 ans, il est encore assez jeune donc ça promet énormément pour l'équipe de France. Pour la tournée destination et la Coupe du Monde.
Fin heureuse dans ce match, mais la France a quand même traversé un gros trou d'air en deuxième période. On en a parlé avec trois essais en un quart d'heure et sans l'interception de
Penaud qui vient rajouter.
Ça aurait pu faire un autre match. Hein. On est d'accord que on a
on n'est pas passé loin,
notre...
la correctionnelle voilà. En seconde période. Mais c'est ça, c'est la relance de Ntamack qui vient un petit peu couper tous les espoirs avec du coup cette pénalité. Puis juste après l'essai de Damien Penaud sur l'interception, c'est ce qui a vraiment coupé les jambes des Néo-Zélandais.
Donc la question que tout le monde se pose, c'est après cette victoire, la victoire des Anglais d'un point sur les Sud-Africains et des Gallois d'un point aussi sur les Australiens, est-ce que l'hémisphère nord est plus fort que l'hémisphère sud?
L'Irlandais aussi, les Irlandais qui avaient utilisé les
Irlandais. Exactement.
C'était une première depuis les années 30, d'ailleurs, que la Nouvelle-Zélande perd deux matchs d'affilée.
L'Australie, sur cette tournée, a montré...
Elle ne montre rien depuis un petit moment, quand même, à l'Australie. Hein. C'est un petit moment qu'elle est un petit peu moins forte que les autres.
Oui. L'Afrique du Sud, avec un arbitrage un peu plus correct, aurait pu l'emporter gagner ses trois matchs sur sa tournée.
C'est compliqué de juger sur une tournée comme ça, sachant que les équipes de l'hémisphère sud ont plus joué sur ces derniers mois.
Championship.
C'est ça, donc c'est assez compliqué d'évaluer ça. Faudra voir à la prochaine Coupe du Monde, hein, de toute façon, si vraiment les nations européennes et les nations du Nord sont devenues supérieures en général à l'hémisphère sud, mais ça reste encore très kiff-kiff. Hein. On voit que les matchs entre Galles-Australie, enfin tout ça, même l'Afrique du Sud et tout, ça reste encore tout ça très serré.
Dernière question. Pardon, excuse-moi. Vas-y.
Non, mais on parle tout le temps. C'est que il y a des renouvellements de générations, de choses comme ça. On a connu les Européens qui gagnaient jamais. C'était la Coupe du Monde de football. C'était toujours les pays sud-américains. Et on est revenu. Maintenant, c'est l'Europe qui gagne. Et là, par contre, en rugby, c'est sûr que les Européens ont forcé leur jeu. Ils ont musclé leur jeu. Maintenant, est-ce qu'on leur pose pas des problèmes? Autre, est-ce qu'on n'a pas commencé à jouer un peu comme eux?
Oui, c'est ça. Avant, on parlait que du French flair, hein, quand voilà. On les battait. Maintenant, on parle vraiment de puissance de pack. Et oui, on le voit avec d'ailleurs l'Irlande et puis l'Angleterre. Bah,
ça joue néo-zélandais. Quand on voit le jeu de l'équipe de France, c'est du jeu de main. Ça essaie de combiner rapidement. Enfin, ça ressemble de plus en plus. Bah, c'est ce qui a marqué. C'est ce qui a gagné pour les hémisphères sud. Donc, bon.
Charles, tu es un peu d'accord avec moi. On apprend aussi nos adversaires.
Ah mais totalement, on apprend des défaites.
Très forts, les meilleurs sont les.
On apprend des meilleurs.
On apprend des meilleurs.
C'est les meilleurs qu'on apprend et
c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça.
Ça promet un beau tournoi parce que l'Angleterre arrive avec une nouvelle génération aussi.
Hein. La question, Marcus Smith,
la question, qui va gagner le tournoi?
Alors, sur 2022.
Jean-Marc, je pense que là tu peux mettre des paris très haut parce que personne ne le sait en ce moment.
Je suis d'accord avec toi.
C'est très compliqué.
Moi je mets toi.
Entre la France, l'Angleterre et l'Irlande.
Ah t'as mis la France direct.
Ben non, mais ils font partie, pour moi, des trois favoris. Un tout petit, mais alors vraiment tout petit degré moindre, les Écossais. Et encore un petit degré, les Gallois.
Moi, tu m'as dit l'Italie tout à l'heure, quand même.
Oui, l'Italie pour la cuillère de bois. Là, je peux mettre un gros billet, je ne devrais pas me planter.
Ça, ben on a hâte d'être en février.
J'ai juste une petite anecdote. C'est juste hier soir, j'ai vu une émission qui était extraordinaire, ça s'appelait Papa. Et il y avait Emilien Tamac et qui parlait de son fils. Romain Tamac, c'était avant même qu'il marque l'essai hier soir contre la Nouvelle-Zélande. Et il disait, à l'époque, on disait à mon fils, « Ah, oh, t'es le fils d'Entamac et tout. » Et maintenant, on me dit, « Vous êtes le papa de Romain Tamac et vous avez déjà joué au rugby aussi, vous ?» Ils trouvent ça génial parce que le fils a réussi à devenir aussi fort que son papa.
Il est encore très jeune,
la carrière. Il a 23 ans.
22
ans, ouais. C'est ça. Mais il a sur les épaules un passé, son papa, très, très, très fort. Et il disait, voilà, quand ils avaient 7-8 ans, parce que son deuxième frère joue aussi, je mettais des petits challenges. Vous faites ça tous les jours. 10 pompes, des abdos. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Par contre, si mercredi, à l'entraînement, votre copain sera meilleur que vous, ce sera votre faute, pas de la mienne. Et voilà, on en est là maintenant.
On voit aussi que c'est le Stade toulousain qui a vraiment reformé, qui a assez appuyé sur son centre de formation, sur les jeunes et tout, qui aujourd'hui compose l'équipe de France, qui fournit énormément 10 joueurs et dont c'est quasiment 7 ou 6 titulaires à chaque fois. Donc vraiment.
C'est jamais arrivé que le fils gagne le championnat après son père, 18 ans après.
Allez, on ferme la page rugby, c'est Nitro, Maëlan, c'est les Sports Méca.
And Fernando, is there any damage? Is there any possible damage?
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et Jean-Marc, on commence avec la WRC et le 8e titre de champion du monde pour Sébastien Ogier.
Exactement, et en gagnant en plus la dernière étape à Monza.
5 victoires pour lui cette saison, c'est plus que tous les autres.
Exactement, et puis 12. C'était la dernière course de son copilote Julien Ingrassia qui lui arrête, prend sa retraite. Sébastien Ogier, on l'a dit, continuera un petit peu, au moins avec le rallye de Monte-Carlo, la saison prochaine.
Pas de saison complète, il ne chasse pas sur les terres de l'Aube pour aller lui...
Chercher le 9e titre.
Le 9e titre.
Non, parce que
projette sur l'endurance.
Exactement, il a un contrat avec Toyota pour peut-être courir aux 24 heures la saison prochaine.
Exactement. Très bien, allez, Fabrice, F1, on était à Doha. Alors, à Losail même.
Oui.
Sur un circuit moto.
Un Grand Prix qui était gagné d'avance pour Hamilton, il part en pole position, tout s'est joué, mais il est parti direct et voilà. Mais on ne s'attendait pas à un retour aussi rapide de Verstappen. Tu ne ferais pas plaisir.
Verstappen parce qui partait en 7e place sur la grille.
Pénalisé sur la grille.
La stratégie de course a été complètement différente. Alors que Hamilton faisait course en tête tranquille, Verstappen arrivait derrière. Et il y a eu 4 changements de pneus. C'est-à-dire qu'il voulait absolument, parce qu'il savait pertinemment...
Il voulait être le plus rapide sur la piste, pas forcément
Il savait pertinemment qu'ils n'allaient pas aller chercher la victoire.
Non.
Donc, il fallait absolument pour le meilleur temps pour gagner un point. Mais il est revenu deuxième. Et là, ce n'est plus la même. Et là, derrière, on a une course complètement différente, qui est stratégique. Ça va être le mano-mano pour les deux dernières courses, qui va être magnifique. C'est-à-dire que la stratégie de Mercedes et la stratégie de Red Bull est complètement différente. Quand Red Bull change les pneus, Mercedes fait la même chose, mais a toujours deux tours de retard. Donc, évidemment, les pneus se suivent plus vite. Et là, à chaque fois, c'est Verstappen qui prend le truc, ou Pérez. Et là, pendant son temps, Alonso, il fait son petit bonhomme de chemin, et il y va. Et à un moment, on voit Alonso, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon, il y a l'incident de Bottas qui crève au 30e tour, mais Alonso qui demande à son équipe, Ocon, il est où ? Esteban, il est où ? Parce que là, il faut que je défende ma troisième place.
Mon podium.
Et oui, et Esteban, il est cinquième ou sixième. Et là, il se fait passer par Pérez. Pérez qui le passe, mais il ne peut rien faire. Enfin, franchement, il a vraiment
résisté. Il a tout donné,
mais il ne pouvait pas.
On sent que la Red Bull est à la ligne, ce n'est pas la même voiture.
Ce n'est pas les mêmes. Et là, on se dit, bing, après Nicolas, sa fille qui crève.
Russell aussi qui a crevé,
donc ça fait des étincelles partout. On a la safety car virtuelle. Et là, Verstappen, bon, il rentre au stand, il change de pneu. Est-ce que Hamilton n'a pas...
Il ne peut pas le faire. Hamilton est devant, si Hamilton rentre...
Il ne peut pas le faire.
Verstappen reste en piste et à ce moment-là, Verstappen passe premier.
Et donc, bah, ça permet à Verstappen
de prendre le point du
meilleur. De refaire le meilleur chrono.
Et Alonso de finir troisième parce que Pérez revenait très très vite. Alonso avait des pneus très usés en hard, sachant qu'on a vu que les pneus hard crevaient à la fin avec les Williams. Donc il était très juste et la Virtual Safety Car a permis de gagner 2-3 tours pour, sur,
Alonso, sur, ça, sur
pas, Alonso, pour Alonso. Alonso. Et comme ça, Pérez ne pouvait pas revenir et à la fin, il finit très vite.
Qui est-ce
très
qui a le meilleur tour en piste ?
C'est Verstappen.
Donc,
Il l'a fait deux fois de suite.
Et donc, il récupère 19 points.
Donc, au classement pilote, finalement, c'est très serré. Verstappen n'a plus que 8 points d'avance. Il reste deux grands prix. Donc, en cas de victoire de Verstappen au prochain Grand Prix qui sera en Arabie Saoudite, un nouveau Grand Prix à Jeddah, qui normalement ne va pas tarder à être fini de construction. Donc, si Verstappen gagne, il sera champion. Sinon, Hamilton, ça va revenir à un point, quasiment un ou deux points sur la fin du
dernier tour.
Exactement. Donc,
passionnant cette saison de F1 où rien n'est fait.
Les deux grands prix vont être très stratégiques et effectivement. Faut savoir, c'est que la belle performance des Alpines quand même, parce qu'ils ont pris 25 points à AlphaTauri. Et là, ce Gasly, il a fait une course
déplorable. Mais
ils n'avaient pas de rythme.
En fait, Alonso est troisième et Ocon cinquième.
Ouais, bonne perte des Alpines, c'est dommage.
Et au constructeur, c'est encore très sérieux.
On ne peut pas en parler trop longtemps parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Et Maëlan, c'est le score, les résultats des clubs nantais.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, on commence avec des victoires, Jean-Marc. Donc, on parle de volley.
On parle de volley, oui, tout de suite. Donc, victoire des Boys, le NRMB qui gagne à Toulouse 3-7-1. Du coup, qui est septième au classement. Déplacement à Chaumont. Réception de Chaumont, jeudi 24. Vérifier.
C'est à Mangin-Beaulieu, je crois.
C'est ça, c'est ce que j'allais te dire.
Exactement. Le VBN qui recevait le leader, le Canet.
Et une belle victoire, 3-7-2. Les Nantaises qui étaient menées 1-7-0, puis 2-7-1. Et qui ont même eu contre elles une balle de match. Et qui ont réussi à retourner la situation et en emportant le tie-break 16-14. Au calendrier, et j'y serai, c'est mercredi à Mangin-Beaulieu, la réception des Allemandes de Schwerin en Coupe COV.
Parfait. Basket, le NHB qui perd à domicile face à Tours.
Exactement. Défaite 92-84 pour les Nantais. On espère que ça ne va pas trop durer. Et pour les féminines, encore une nouvelle défaite des déferlantes, 79-77 à La Tronche en mêlée.
Allez, on continue malheureusement avec les défaites et ça, c'est du hockey.
Exactement. Et la défaite des Corsaires en prolongation, 2-1. But nantais marqué dans le troisième tiers-temps grâce à Tenbrack. Je pense qu'on n'a pas le temps de diffuser l'interview de Martin. Ça va être un peu juste.
Donc, allez, on y va. Si. On écoute Martin.
Ça passe.
On écoute Martin.
Allez, ce match-là, on méritait 3 points. On méritait 3 points. On a manqué de réussite. Les deux gardiens de but ont eu un match énorme, énorme, énorme. On aurait mérité 3 points soir, mais évidemment, il faut que tu marques des buts pour gagner des matchs. On les a eu, nos occasions. On se les a créées, les occasions, malgré le fait que l'arbitre a décidé de donner des power play de 4 contre 3 puis de 5 contre 3 à Cholet. On a fait preuve d'énormément de caractère pour tuer ces pénalités-là. On a fait les sacrifices nécessaires. Puis on aurait mérité de prendre ces 3 points-là, sincèrement, sur ce match-là. C'est aussi simple que ça. Après, il faut que tu marques. Ça s'est joué en overtime. On sait qu'en overtime, au tir au but, c'est que tu lances un 25 cents tabarnak dans les airs, puis ça peut aller d'un côté comme ça peut aller de l'autre. Mais sincèrement, qu'est-ce que tu veux? Les gars ont fait preuve de caractère. Les gars se sont défoncés. Puis on manque de réussite. On a des gars qui sont supposés de marquer plus de buts que ça. Puis elle ne veut pas rentrer. Est-ce que les efforts sont là? Oui, les efforts sont là. On le veut à soi. Je pense que les gens la patinoire est archi blindée. Je pense que les gens ont eu droit à un match de play-off soir. Bien sûr, oui. Les gens ont un match de play-off. Toutes les stats, ils sont ici. Vous les avez, les tirs au but, les mises au jeu, les engagements, puis tout. Mais ces feuilles-là, ça compte plus, esti, parce que c'est le score qui compte. Mais tout là-dessus, ça explique exactement que les 3 points, on les aurait mérités, tout simplement que ça. Mais on va les revoir chez eux, ces gars-là. On va aller les revoir chez eux.
Voilà, on va les revoir. Et croyez-moi que la suite de l'interview était beaucoup plus sévère. On fait exprès de ne pas la passer. C'est notre petit secret à nous, les journalistes. Prochain match, donc, du coup, déplacement à Marseille pour les Corsaires, ça va être chaud. Et puis mercredi 1er, c'est la réception de Gap pour la Coupe de France, les quarts de finale. On y sera, c'est à 20h. Et j'espère que vous y serez aussi. Je continue dans les résultats avec un petit mot de rugby du Stade Nantais. La victoire du Stade Nantais 34-17 à la Baule. Les Nantais qui sont toujours premiers. 7 victoires, une seule défaite. Et prochain match, le 5, la réception de plaisir à 15h. Et un dernier mot de sport pour moi, si j'ai oublié personne, c'est du tennis, puisqu'on suit l'équipe du Stade Nantais Université Club.
Dit le SNUC.
Dit le SNUC, le tennis, pardon, en Pro B. Donc ça se joue en 5 journées. Et du coup, c'était un déplacement du SNUC à Lagorde, avec une victoire 4 matchs à 2. Les victoires de Clément Tabur, de Vincent Stouff et de Gleb Sakharov tout seul et Gleb Sakharov associé à Vincent Tabur. Leur prochain match, ça sera déplacement à Clermont le 27, ça se joue sur Moquette. Puis il y aura 3 matchs d'affilée à Nantes au stade Pascal Laporte, les 4, 8 et 11 décembre. Est-ce qu'on a le temps d'écouter
Gleb... On écoute Gleb Sakharov, Maëlan.
Avec Gleb Sakharov avant ses rencontres de Pro B du Stade Nantais. Alors comment tu appréhendes, toi qui es habitué à faire des tournois donc à être vraiment individuel dans ton fonctionnement, comment tu abordes ça, cette sélection d'équipe?
C'est pas la première année, hein, c'est vrai que cette période-là pour les matchs par équipe est vraiment super sympa et très importante pour le club. Je suis licencié ici depuis 20 ans, ou même un peu plus peut-être. Donc pour moi, c'est toujours particulier de jouer pour le club et avec mes potes. C'est la seule période durant l'année où on fait des matchs comme ça, où on joue les matchs par équipe. Donc c'est je profite un maximum, parce qu'après c'est un sport individuel. Après on baroude un peu à droite à gauche tout seul sur les différents tournois. Donc là c'est vraiment super sympa et j'ai hâte.
Eh ben, je vous invite à aller voir aux dates que je vous ai données. Donc, Stade Pascal Laporte, c'est les terrains du SNUC.
Et sans transition, juste du coup, un dernier mot de tennis. C'était les Masters WTA et ATP. La victoire d'Alexander Zverev face à Medvedev en finale 6-4-6-4. Zverev qui avait éliminé Djokovic en demi. Il remporte son deuxième Masters après 2018. Chez les femmes, c'est Garbine Muguruza, l'Espagnol, qui du coup remporte le tournoi, le Masters, pour une première fois pour une Espagnole. Et du coup, qui intègre d'ailleurs le top 3 au classement WTA en battant Annette Kontaveit 6-3, 7-5.
Et Cocorico, pardon, pour les, en double pour Herbert et Mahut qui gagnent un deuxième master.
Et on retrouvera les tennismen en février pour le début de la saison prochaine. Allez, Mélanie, il est 20h. On passe la place à Passage en Force pour parler NBA. À lundi prochain. Ciao, ciao.
Ciao.